Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce coup de massue pour les salariés de Renault.
Édouard Philippe avait pointé du doigt il y a quelques semaines les risques d'un écroulement de notre économie avec le confinement. Le marché automobile plombé par la chute des ventes amorce un dangereux virage et donc Renault pourrait être le premier constructeur français à en faire les frais. Pas moins de 4 sites sont menacés, dont celui de Flins. Dans les Yvelines, Bruno Millienne est le député de la circonscription, Julien Fautra l'adjoint.
Renault va très mal, il y aura une restructuration, c'est évident. Les élus du territoire vont se mobiliser effectivement pour soutenir Flins et cette usine parce qu'ils ont su à chaque fois rebondir. C'est un site qui a beaucoup souffert au cours de l'histoire de Renault, mais qui est toujours là. Moi, mon rôle de député, c'est effectivement d'aller voir les gens, faire un point avec eux et de remonter au gouvernement et de tout faire pour faire en sorte qu'on puisse sauver ce site qui est quand même un site emblématique de la marque.
Le député Bruno Millienne avec Julien Fautra. Bonjour Christophe Bourou. 4 sites sont menacés. L'annonce devrait être officialisée la semaine prochaine alors que Renault vient d'obtenir un prêt de 5 milliards d'euros.
Oui, c'est après Air France le plus gros prêt accordé par l'État. Renault, frappé de plein fouet par la crise, a vu ses ventes s'effondrer de près de 80% en avril. Des usines à l'arrêt pendant des semaines, ajouté à cela un partenaire Nissan en difficulté lui aussi, et des ventes qui devraient dégringoler de 20% cette année dans le monde, avec au final un cours de bourse qui ne cesse de dévisser et qui a perdu presque 60% de sa valeur depuis janvier.
Christophe, est-ce que la crise actuelle n'a pas bon dos ? Puisque ce plan d'économie dont on parle, il est quand même dans les tuyaux depuis plusieurs mois maintenant.
Alors ça, c'est l'avis de certains syndicats, mais en interne, on laisse entendre que ce prêt risque d'être bien insuffisant pour sortir le constructeur d'une situation déjà critique avant la crise. L'an dernier, le groupe aux Losanges a ainsi enregistré ses premières pertes en 10 ans. Alors pour limiter la casse, l'idée est de mettre un frein à la course au volume souhaité par Carlos Ghosn et qui avait hissé Renault au premier rang mondial, avec cette fois dans les tuyaux un vaste plan d'économie de 2 milliards en 3 ans, plan qui va passer par une diminution du nombre de véhicules pour sacrifier les moins rentables comme l'Espace et le Scénic et fermer des sites sur la sellette celui de Choisy-le-Roi, de Dieppe et des fonderies de Bretagne, soit au total près de 1000 salariés. Pas de tabou, avait dit la direction en février dernier, mais à cette heure, rien n'est encore figé selon des sources proches du dossier, notamment sur le sort de Flins dont on vient de parler, qui pourrait non pas fermer mais cesser de produire des voitures dans quelques années pour d'autres activités, décisions qui seront annoncées le 29 mai prochain.
Donc vendredi la semaine prochaine. Merci beaucoup Christophe Bourou.
Et à 8h20, la réaction du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui sera aussi avec nous pour débattre du travail, du temps de travail. Faut-il travailler plus, se retrousser les manches pour compenser la crise? Nous serons aussi avec l'économiste Bertrand Martineau.
Et on rappelle que le marché automobile a chuté de 76% en avril en Europe et en France. Les concessionnaires se retrouvent aujourd'hui avec 10 milliards d'euros de voitures invendues sur les bras.
8h03. Après les applaudissements aux fenêtres, bientôt les espèces sonnantes et trébuchantes pour les soignants.
Une prime exceptionnelle sera versée sur les salaires en mai ou en juin. 1500 euros pour les personnels qui étaient dans les zones les plus touchées. 500 euros pour les autres. Mais il y aura des exceptions. Anaïs Bouissou, bonjour.
Bonjour.
Ça risque de créer pas mal de tensions puisque ce sont les directeurs d'hôpitaux qui vont trancher.
Oui, au sein des départements les moins touchés par le coronavirus, 79 hôpitaux font exception. Ils ont pour certains accueilli des trains de malades, par exemple. Ces hôpitaux-là, davantage mobilisés, pourront attribuer soit 500 euros, la prime de base, à leur personnel, soit le bonus maximal, 1500 euros. Il va falloir choisir, faire le tri en quelque sorte. Et ce tri sera effectué notamment au centre hospitalier de Carcassonne, au Mans, Saint-Malo, Rennes, Bordeaux, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire de Montpellier ou encore de Toulouse. Alors effectivement, ça va être un sacré casse-tête pour les chefs d'établissement, car les modes d'attribution des 500 ou des 1500 euros sont laissés à leur appréciation. Sur quels critères précisément, quelle profession? Mystère, ces détails techniques qui n'en sont pas créent déjà la colère des soignants et non-soignants des hôpitaux. Les directeurs sont invités à en discuter avec les instances représentatives du personnel, avec un impératif quand même, un impératif comptable, et c'est le seul qui soit précis, les directeurs ne pourront pas attribuer plus de 40% de primes à 1500 euros, pas plus de 40% de personnel très méritant donc.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou pour ces précisions. Une prime aussi pour certains salariés de l'éducation nationale. Il s'agit de récompenser ceux qui ont eu un surcroît de travail, explique le ministère. Jusqu'à 1000 euros maximum, près de 65 000 salariés concernés.
8h05, les téléphones portables s'adaptent à la crise.
Une mise à jour est disponible. Ceux qui ont un iPhone ont dû la recevoir cette nuit. Le port du masque est désormais détecté par votre appareil. Les précisions de Damien Bancal, expert en cybersécurité.
Pour Apple, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir se mettre devant son appareil et ne plus avoir son visage intégralement dénudé. Bref, le téléphone est capable de nous reconnaître, même avec un masque. L'iPhone, mais aussi d'autres téléphones qui seront sous Android, sont en train d'être mis à jour aussi pour avoir des technologies qui permettront aux applications qui vont nous indiquer si on est passé à côté d'une personne qui avait été atteinte par le Covid-19, eh bien de pouvoir aussi transmettre ces informations de manière, paraît-il, il faut l'espérer en tout cas, sécurisé.
Voilà, tout change, même les téléphones. Bienvenue dans le monde d'après. La quasi-totalité des plages rouvre en Corse à partir de demain. Même chose dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues ou La Ciotat notamment. Il sera intéressant d'ailleurs de voir comment se comportent les gens, puisque dans le Morbihan, on a visiblement oublié les gestes barrières et les distances, à tel point que les maires de 3 communes ont demandé à la préfecture d'interdire à nouveau l'accès des plages. Après Levallois, le port du masque obligatoire à Saint-Malo pour le long week-end de l'Ascension. Le maire a pris un arrêté qui entre en vigueur ce matin. Il s'applique dans l'intramuros.
Autour d'Orly, le bonheur est désormais dans le pré.
L'aéroport a fermé début avril avec le confinement. Il pourrait rouvrir le 26 juin. D'ici là, les riverains ont bien l'intention de profiter du silence. La pollution sonore a été divisée par 32 en moyenne dans le secteur. Dans la commune de Villeneuve-le-Roi, la vie n'est plus tout à fait la même. Écoutez ce reportage de Vincent Serrano.
Oh, quel pied.
C'est un cri du cœur pour Ludovic et Céline au milieu de leur jardin qui est à 200 mètres à vol d'oiseau des pistes de l'aéroport. Ils sont unanimes. La fermeture provisoire d'Orly, c'est pour eux le début d'une nouvelle vie.
Ah oui, on redécouvre le jardin.
Bah, des siestes dans le jardin. Des siestes, voilà. Il y a deux jours, moi le matin, je bois le café sur la terrasse. Il y avait trop longtemps que j'avais pas entendu les oiseaux.
Ah bah, on redécouvre de pas mettre la télé à fond.
Et nous, on est tellement près que la maison, elle vibre quand les amis ils passent là. C'est comme si que j'avais déménagé.
On peut discuter sans avoir un avion qui passe toutes les deux minutes. Voilà. J'ai récupéré ma voix, on va dire. Les avions masqués, les engueulades.
Non. J'aurais préféré. Allez voir les voisines là-bas, elles font bronzer. Bonjour madame. Votre prénom ?
Maya.
C'est un bonheur retrouvé grâce à...
Ah oui, ça, les avions, ils nous ensoleillent. Hein. Vous comptez 1, 2, 3, 4, il en passe un. Sans arrêt, sans arrêt. On les a pas, on n'est pas mécontentes. On va pas pleurer parce qu'on les a pas.
La mer, il en est conscient. Hein. Les gens lui en ont parlé, il y en a beaucoup. Hein.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour monsieur.
Vous avez constaté monsieur le maire une baisse des décibels jusqu'à 80% et vous voulez pas que ça change.
Non mais exactement. Et le président de la République a dit il y avait un avant et un après. Eh bien on espère bien qu'il y aura un après où le développement aéroportuaire sera mesuré et qu'avant l'ouverture de l'aéroport, les maires des villes riveraines, nous demandons à ce qu'il y ait un avis du comité scientifique, comme il est fait partout ailleurs.
Alors tous ici comptent profiter de ce calme avant une possible réouverture de l'aéroport d'Orly fin juin. Céline et Ludovic sont en pleine construction d'un potager.
Et on entend les oiseaux, apparemment dans le coin, c'était pas arrivé depuis longtemps.
C'est merveilleux, j'ai vraiment peur pour eux, parce que ça va s'arrêter un jour, c'est ça qui est terrible.
Reportage de Vincent Serrano.
À votre bon cœur, les clubs de foot comptent sur leurs abonnés pour enflouer les caisses. À Marseille, certains supporters restent à convaincre.
Un mec qui nous a mis en galère, j'ai pas envie de lui donner quelconque argent. En tout cas, moi-même et autour de moi, il n'y a personne qui veut faire un don.
Bon, bah voilà, les supporters de l'OM, sympathiques. Hein. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
8h10. Avec le coronavirus, même les clubs de foot trinquent en ce moment.
Une réunion essentielle a lieu tout à l'heure à la Ligue de foot professionnelle puisqu'il s'agit de répartir les droits télé de la saison prochaine. Un juteux magot qui doit venir compenser en partie les pertes subies après l'arrêt de la Ligue 1. Les abonnés privés d'une partie de la saison peuvent aussi obtenir un avoir ou être remboursés. Et ils sont aussi incités à faire un geste de générosité, Nicolas Georgerot.
Ah oui. Oui, ils ne sont pas tous prêts à aider leur club. Le remue-ménage actuel à l'OM, la gestion décriée du président Jacques-Henri Hérault. Anthony appartient au groupe des fanatiques. Pas question pour lui de faire don de ses 50 euros.
En vrai, moi pour l'OM, je donnerais quasiment tout. Si c'était un mec comme Pape Diouf, il n'y a pas de problème, je lui laisse les sous. Mais un mec qui nous a mis en galère, j'ai pas envie de lui donner quelconque argent. En tout cas, moi-même et autour de moi, il n'y a personne qui veut faire un don.
À Lens, on entretient le lien quasi quotidiennement avec les associations de supporters. Les abonnés représenteront les trois quarts de l'affluence du stade la saison prochaine en Ligue 1. Fabrice Wolnigzak, responsable responsable marketing du club.
Il y a aussi une relation de confiance qui est établie et à nous de faire en sorte que ça puisse perdurer. On est vraiment soucieux de ça, en fait.
Virginie, abonnée à la Mosson à Montpellier depuis 1988, demandera une partie de l'argent, mais pas la totalité des 4 abonnements de la famille.
On fera moitié-moitié si j'ai envie d'être solidaire aussi. Enfin, je veux dire, c'est une époque où il faut se serrer les coudes de tout le monde, quoi.
Au PSG, le prélèvement automatique mensuel a été stoppé depuis le mois de mars. Les abonnements restent valables si le club est amené à jouer la Ligue des Champions en août.
Nicolas Georgerot.
C'était donc le journal de Jérôme Florin. Tout de suite, notre brigade RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Direction de Sud-Ouest pour une nouvelle carte postale de notre belle France. Patrick Tégéraud nous attend au bord d'un lac. Brigade Tourisme donc, avec vous Patrick. RTL met en avant les territoires français pour vous aider à choisir vos prochaines destinations de vacances. Il est la clé de voûte du canal du Midi. Sans lui, ce chef-d'œuvre du XVIIe siècle n'aurait pas pu être possible. Ce lac artificiel, le plus grand au monde, en son temps, permet de maintenir le niveau d'eau du canal de Toulouse à Sète. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce lac dont nous vous parlons est le résultat d'une prouesse technologique, mais aussi certainement l'un des endroits les plus romantiques d'Occitanie.
Oui, tout à fait. C'est le lac de Saint-Féréol. Ce lac est bleu, parfois vert. Il est enchâssé dans les rochers et la forêt. Les quelques hôtels, restaurants et villas sont invisibles derrière les arbres. Un décor charmant. Au pied du barrage, Dominique Pilato dirige le réservoir, l'espace culturel dédié au merveilleux canal du Midi. Dominique est fasciné par ce lieu étonnant.
Allier à la fois ce niveau de technicité à la beauté de ce paysage et ce qu'en ont fait les hommes depuis le XVIIe siècle, c'est très, très émouvant. Et quand on est sur la digue et qu'on regarde ce paysage de petites collines, ce paysage vallonné, très boisé en même temps, qu'on a la plage d'un côté et qu'il y a une architecture intéressante aussi de villas. Et tout ça fait que c'est un mélange vraiment très agréable et passionnant et intellectuellement inépuisable.
Alors Patrick, le lac accueille tout de même de nombreux touristes, hein ?
Oui, et puis toujours, on s'y baigne, on y fait de la voile. Avant que l'autoroute mette la Méditerranée à 1h30 de Toulouse, on appelait Saint-Féréol la plage des Toulousains. Mmh. La capitale occitane n'est qu'à 50 km, il y avait même 4 boîtes de nuit. À l'époque, on disait à Toulouse Saint-Fé, comme ailleurs on parlait de Saint-Trope. C'est plus calme aujourd'hui et c'est cette sérénité qui a attiré Jean-Marc Miller. Il vient de reprendre un restaurant, les Frangines du Lac, et depuis sa terrasse, au travers des immenses troncs rectilignes des pins noirs, on voit briller la surface de l'eau.
C'est très 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 famille. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de nervosité sur cet endroit.
Voilà. Il y a un panorama extraordinaire.
Effectivement, on a quelque chose d'un petit peu, presque une anomalie, avec ces arbres qui sont devant ce lac, avec la possibilité d'être à l'abri du soleil et puis d'avoir l'eau à quelques centimètres, quoi. C'est un endroit reposant.
Alors de l'autre côté du lac, derrière le camping, Fabrice Graton gère le haras du lac depuis 4 ans et il est heureux ici.
Ah oui, très. Et puis même les gens sont super sympathiques dans le coin. C'est en plus Saint-Féréol, ça a le gros avantage d'être à la fois à la montagne, parce qu'on est vraiment en bordure du Massif central, et puis la plaine à côté et le lac de Saint-Féréol, ce qui fait qu'on a toujours un temps, on va dire même les orages d'été ou autre, quand on les voit passer, mais c'est rare quand on les prend. C'est un peu le paradis.
Un paradis ultra protégé par le fait curieusement que 3 départements se le partagent, le Tarn, l'Aude, la Haute-Garonne, et qui heureusement n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur son aménagement et qui est désormais intouchable grâce au classement du canal du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Vous êtes porteur de...